sur Occitanie Première. Restez avec nous, c'est parti pour une heure d'OxyFoot. Bonjour tout le monde, votre rendez-vous de football en Occitanie, c'est parti pour la 13e édition. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver et c'est toujours Quentin Marie qui est là pour vous présenter cette émission, la 13e. Et on démarre la semaine ensemble, comme d'habitude, deux personnes sont là pour m'accompagner. En face de moi, il fait sa deuxième apparition avec nous et c'est aussi avec beaucoup de joie qu'on le retrouve, c'est Walid Hamadi qui est là. Salut Walid.
Bonsoir Quentin.
Comment ça va?
Ça va pas mal, ça va.
Bon, très bien. Et à ma droite, c'est Cédric Talon, organisateur du Challenge des KBS, un tournoi de futsal U11 réunissant pas moins d'une centaine d'équipes. Il a accepté de nous rejoindre. Salut Cédric.
Bonjour Quentin.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, c'est la grande semaine, ça y est?
Ah oui, on est à fond là.
Vous êtes à fond?
Voilà, cette dernière ligne droite jusqu'à ce week-end.
Samedi, dimanche.
Sans dormir.
On aura le temps sans dormir. Sans dormir.
Pour
retrouver donc Cédric qui nous parlera du Challenge des KBS. Justement, laissez-moi vous présenter le programme de l'émission. On commence d'abord avec Walid dans quelques instants pour parler des résultats en Occitanie ce week-end. Une interview de Cédric et à la fin aussi une petite interview décalée pour en savoir un petit peu plus sur le personnage qui est à ma droite aujourd'hui. Une pause musicale avec de la musique locale pour le coup. Et enfin, le fameux quiz pour conclure cette émission. On a eu un Kevin Thierry qui était très très chaud la semaine dernière, Walid. On va voir si Footpi...
Je suis très très froid, donc ça va pouvoir contrebalancer.
On verra si Cédric représentera bien les invités pour ce quiz. Messieurs, pour démarrer cette 13e édition, comme d'habitude, les résultats, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains occitans, Walid?
Les semaines se suivent et se ressemblent. Il y a malheureusement beaucoup de reports à cause des terrains suspendus à droite et à gauche. On va quand même commencer par la victoire, encore et toujours, de Colomiers en National 2. Cette fois, c'est face à la réserve de l'OGC Nice. Mais c'est encore un carton, donc 4-0, grâce à un coup du chapeau de Cardinali et un dernier but de Guillaume Insou. Patrice Morel, qui trouvait ses joueurs un peu endormis à l'échauffement, il signerait tout de suite, je pense, pour avoir les voir aussi apathiques lors des prochains matchs et aussi se réapproprier la première place du classement aux dépens de Marignane, qui compte un match en plus quand même. Donc Colomiers va pouvoir reprendre peut-être cette première place. Bien sûr, les résumés, écrits et vidéos aussi, sont à retrouver sur footpi.fr. L'USC, la semaine prochaine, se déplacera chez la Lanterne Rouge, Tarbes, en match en retard. Tarbes qui s'est incliné 4-0, deux fois cette semaine contre Monaco, mercredi c'était, et puis à Bergerac samedi. L'équipe d'Abdelkader Zahi et Roberto Branco va décidément assez mal. On leur souhaite quand même d'aller un peu mieux dans les semaines à venir. En National 3, Balma, Le Rodéo et Castanet ont vu leur match reporté. Alors il nous restait le TFC qui est allé chercher le nul à 0-0 à Alès. Mais surtout un prometteur Blagnac, Luznac, qui a débouché sur une petite victoire des Kawek 1-0. C'est Ayoub El Bouazati qui a marqué à la deuxième minute, tout de suite. Et puis après, plus rien. Son équipe a laissé les clés aux Ariégeois. Le dernier du classement n'en a rien fait, malheureusement. Mais ils ont montré une envie de s'imposer au physique. C'était assez rude sur le terrain. À la fin du match, Sébastien Mignotte nous a semblé à la fois déçu et désemparé. C'est à peine s'il a prononcé quelques mots pour les réactions. En Régional 1, c'est le leader Muret qui a été accroché 0-0 chez le deuxième, Rodez 2. Et le TMFC reprend donc des points sur ses concurrents grâce à sa victoire 4-1 contre Florence, avec des doublés de Doukaini et de Canon. On est un échelon en dessous, c'est Blagnac qui gagne 1-0 à Pamiers et se donne un peu d'air en milieu de tableau, tandis que Cazères cartonne à foi sur le score de 5-3. C'est toujours le coude à coude au sommet du classement avec l'Union et Cazères donc, qui est premier. Mais c'est seulement sur la différence de but que ça se fait. Plus 24 pour Cazères et plus 15 pour l'Union de Greg Soroche qu'on a reçu il y a quelques semaines. Ensuite, on descend au Régional 3 pour parler de l'autre gros score du week-end. C'était la réserve de Muret qui s'impose 5-0 à Carbone parmi un tas d'autres matchs donc, qui ont, eux, été reportés. Et on ne va pas commencer à parler de classement avec tous ces écarts de matchs. Ils se fausseraient tout de suite au moindre changement. Donc chez les filles, on va parler de la grosse équipe de la région qui est Rodez, qui s'incline de peu à Montpellier, hein, qui est troisième de la D1 féminine, 2-1. Et le TFC qui est allé gagner en division 2 4-1, non pardon, qui a gagné à domicile 4-1 contre Aurillac. Et chez les U19 nationaux, il y a le TFC qui a gagné 4-0 contre l'AS Montferrand. Et Colomiers a fait un partout à Ajaccio, ce qui est un bon résultat quand on sait que le déplacement chez les Corses est assez difficile.
Et pour rester sur la Nationale 2, Walid, vous l'avez dit avant de parler des résultats que les week-ends se ressemblent, mais surtout pour Colomiers qui est en train de maintenir un rythme assez incroyable. On croyait, enfin, on pouvait croire du moins que cette élimination en Coupe de France allait symboliser une rupture. Pas du tout, finalement. Ils sont vraiment en train d'affirmer leur statut, les Columérins.
Ah non, bah ouais, parce que le match contre Sochaux en Coupe de France était tout à fait honorable. Oui, ils ont perdu que d'un but d'écart. C'était. Franchement, c'était, y avait rien à redire sur ce match. Ils auraient pu même, sur un quiproquo, égaliser et puis jouer pourquoi pas les tirs au but. Mais non, non, Colomiers, cette saison, marche fort. Ils ne se posent pas de questions. Et comme on a vu le coach donc, de Colomiers, Patrice Morel, qui a été serein et qui a vu son équipe trop sereine, donc selon lui, à son goût, ça reflète bien une mentalité vraiment... Bah pourquoi pas de champion à la fin de la saison. Donc ils sont à 2 points de Marignane qui est premier, avec un match en retard, donc tout est faisable pour Colomiers, ça c'est clair.
Et entre guillemets, le doublé en quelque sorte, une montée de Rodez et de Colomiers de N1 à Ligue 2 et de N2 à N1, ça serait quand même une belle petite cerise sur les gâteaux, en plus bien évidemment du maintien du TFC que l'on espère également, ce serait un bel ensemble quand même.
Le maintien du TFC, ça a l'air d'être assez bien parti. Ça commence à se décanter quand même en Ligue 1. Mais bon, on croise les doigts, on touche du bois aussi. Parce que c'est le changement d'entraîneur, on peut dire que ça a peut-être fait un petit effet de booster, c'est sûr. Ensuite, en ce qui concerne, oui, à la fois Rodez et Colomiers, ce serait un coup de boost énorme pour la région. Ce serait un coup de projecteur aussi qui serait le bienvenu. Parce que dernièrement, on ne peut pas dire que le foot occitan est... et briller avec, on a encore le traumatisme de Luznac en tête, on espérait, on a à chaque fois des petits espoirs, même pour Toulouse qui commence l'année dernière, il me semble, une belle saison et qui finit dans le ventre mou, à chaque fois on est déçu, donc on espère que cette saison ça va enfin porter, ça va enfin sourire à des clubs de la région, ouais.
On espère en croiser. En tout cas, Cédric, vous de votre côté, même si bon, on y reviendra tout à l'heure, c'est plutôt le futsal hein, forcément qui vous anime. Est-ce qu'il y a une équipe dans la région que vous suivez plus particulièrement, plus qu'une autre, avec lesquelles peut-être vous avez noué des contacts ou pas plus que ça?
Alors moi, depuis l'enfance, je suis supporter du TFC. On ne se refait pas. Hein. Je suis de la région et j'ai grandi avec cette équipe. Voilà.
Sinon, une équipe, on va dire, de niveau régional de la région que vous suivez peut-être, avec qui vous avez eu des attaches ou
Ah, mais après, c'est le club organisateur du Challenge Cabiès. Hein, ouais. Donc, c'est le club de l'Amigale de Séquestre, un club d'Albi, voilà, qui a eu évolué jusqu'en PL, qui est redescendu un petit peu, mais qui se porte plutôt bien et qui est mon club de toujours.
Le club de cœur,
voilà,
le fameux,
exactement.
Voilà. Mais Cédric, on va passer...
Et oui, c'est pas une phrase toute faite, comme les professionnels peuvent le faire.
Non, là, on la sort dans ce cadre-là, c'est bien évidemment différent. Bien évidemment. Cédric, justement, tournons-nous vers vous. C'est la deuxième fois que l'on va traiter le sujet du futsal dans l'émission. Il y a quelques semaines, nous recevions Baptiste Duprat pour l'International Futsal Cup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, Cédric, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours, notamment avec le ballon rond, vous concernant à vous personnellement?
Alors moi, je suis venu au foot assez tard parce que je suis d'une famille qui n'a rien à faire du foot. Donc, j'ai commencé le foot à 13 ans. Et puis, de suite, je suis allé dans mon club de cœur, donc l'Amigale de Séquestre. Et puis, j'ai gravi les catégories jusqu'à jouer en senior. Et j'ai fait quelques incartades de la région nantaise pour mes études. Mais dès que je suis revenu sur la région, je suis revenu dans mon club de cœur. Voilà. Et donc, j'étais un modeste joueur de district, j'ai fait quelques matchs en promotion de ligue, mais pas plus haut. Voilà.
D'accord, quel poste vous jouez, Cédric?
Alors moi, je voulais jouer 6, mais en fait, je finissais toujours libéro parce que j'étais meilleur à ce poste-là. Donc voilà, libéro, c'est là où j'ai fait le plus de matchs. Oui.
Et qu'est-ce qui, du coup, Cédric, vous a motivé à vous intéresser au futsal?
Alors plus que le futsal, parce qu'il faut parler un peu de l'historique du tournoi, donc de Challenge Cabiès. C'était un tournoi de foot en salle au début. Le futsal n'existait pas en France encore, donc il y a 28 ans, puisqu'on est à la 28e édition. Et donc c'est alors je ne sais plus il y a combien de temps à peu près, mais une dizaine, quinzaine d'années à peu près, où le tournoi est devenu un tournoi de futsal. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à raconter sur le sujet, puisque c'était Henri-Émile, qu'on nomme le parrain de nos parrains, puisqu'il est venu... 3 ou 4 fois, je crois, sur le tournoi. Et à un moment où il était responsable du futsal à la Fédération française de foot, où il lançait ça, où la fédération voulait vraiment lancer ce sport. Donc il était présent parmi nous, entre 2 fois où il était responsable de l'équipe de France. Donc je crois que c'était après la période Jacquet et avant la période Deschamps. En plein tournoi, il nous a transformé notre tournoi de foot en salle avec des ballons en feutrine, des arbitres avec des drapeaux de touche. Il nous a transformé notre tournoi en tournoi de futsal, en allant chercher des vrais ballons de futsal dans sa voiture, en nous mettant deux arbitres le long de la touche comme on fait pour le futsal aujourd'hui. Donc voilà.
Il avait le nez à l'époque, hein, quand même. Ça.
Oui. Après, c'est la fédération qui, à cette période-là, a vraiment poussé cette pratique, hein, qui n'existait pas du tout en France à l'époque. Et qui s'est développé depuis, bon, on le sait, sur la région, avec, puisqu'on a deux équipes qui sont en première division, et Bruguière et l'UJS.
Exactement.
Après, chez les petits, c'est différent, parce que le futsal est un sport de complément. Donc jusqu'au U11, on va dire, un peu chez les U13, mais surtout jusqu'au U11, c'est un sport qui est pratiqué pendant l'hiver, en gros, entre Noël et les vacances de février. C'est un complément du sport du foot sur herbe extérieur, donc plus technique, plus vif peut-être. C'est pas tout à fait le même sport non plus, mais ça aide à se faire un vrai bagage pour les petits.
Alors cette année, Cédric, c'est la 28e édition. Alors pour le tournoi, tout a commencé en 91. À ce moment-là, il y avait 28 équipes participantes qui étaient uniquement issues du cru régional. Et petit à petit, c'est monté en puissance. Et notamment, vous avez évoqué cet événement et l'arrivée d'Henri-Émile, qui, on peut dire, a véritablement constitué un déclic pour ce tournoi.
Oui, donc il y a des tournois qui commencent gros de suite parce que c'est des gens qui ont un carnet d'adresses, qui connaissent les milieux des clubs pro, etc. Tandis que nous, on se les méritait, on va dire. Donc, on a commencé avec première édition, qui était déjà un gros tournoi régional, avec toutes les équipes, les principales équipes régionales. Et puis, dès la deuxième édition, on a eu la chance d'avoir l'Olympique de Marseille, qui est venu, avec le TFC aussi, qui n'était pas là lors de la première édition. Et puis, ça a été un vrai booster, parce que d'année en année, les clubs se sont rajoutés. Lyon, Nantes, le PSG, Monaco, enfin... Aujourd'hui, on a quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui sont passés à un moment donné sur le tournoi. Et on tourne sur une formule où on a 12 têtes d'affiche, donc 12 clubs pro, donc de Ligue 1 pour la plupart. Et puis cette année, on s'est élargi en masse à l'étranger, puisqu'on a 4 clubs significatifs venant de l'étranger.
Alors, si on peut revenir un petit peu, justement, Cédric, sur l'historique, le succès se répand très vite parce qu'il y a de nombreuses équipes qui rejoignent votre tournoi. Vous l'avez dit, par exemple, voilà, pour la 18e édition en 2008, il y avait déjà 70 écuries qui faisaient partie de l'édition. Donc, ça a vraiment symbolisé le succès année après année, finalement.
Oui, en fait, on est aujourd'hui à un nombre record de 108 équipes. Donc, on est quasiment sur 108 clubs même parce que... il y a juste nos équipes de notre club où on a 5 équipes parce qu'on veut faire jouer tous nos licenciés. Après, on autorise certaines équipes 2 pour des clubs de l'Albigeois qui nous aident à héberger les enfants des clubs pro. Mais sinon, après, c'est quasiment une équipe, un club, parce qu'on a une telle demande. Cette année, on est passé de 96 à 108 clubs. On pensait avoir du mal à remplir et finalement, on est encore à refuser du monde. Donc... bon, on est content, évidemment. Après, c'est toujours un crève-cœur de dire non à des clubs, parce qu'il y a toujours des clubs qui oublient de s'inscrire. On a beau les relancer, etc., leur dire quand les inscriptions prennent fin. Mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place.
Ouais. Alors, selon vous, Cédric, comment est-ce que vous justifiez, justement, cette montée en puissance de la part, enfin, pour le Challenge KBS?
Alors, c'est, les recettes du succès, c'est à la fois avoir un plateau... d'une qualité vraiment très grande, donc ne serait-ce que par les noms des clubs qui viennent. Mais aujourd'hui, on est plus qu'un tournoi avec des clubs prestigieux, mais on a aussi des clubs amateurs qui viennent de la France entière, d'un très très bon niveau. On a énormément de clubs parisiens, des clubs, pour citer des clubs comme Herbel, par exemple, à Marseille, qui est un club formateur, Burel FC à Marseille, qui a sorti... Maxime Lopez, par exemple, l'US Torcy, qui a gagné l'année dernière, qui était une surprise, mais pas pour les spécialistes du ballon rond, qui est un club dans lequel qui a sorti Paul Pogba, qui a sorti pour les Toulousains Christopher Julien, par exemple. Voilà, on a la CBB, Boulogne-Billancourt, qui vient cette année. Enfin, je les ai pas tous en tête, mais on a un niveau de club amateur qui vaut les clubs pro. Et après, la recette du succès, c'est de permettre à tous nos clubs locaux et régionaux de pouvoir se confronter à ça le temps d'un week-end. Et dans une formule qui est très spectaculaire, puisque nous, il n'y a pas de tournoi préliminaire. Tout se passe au Parc Expo d'Albi, le temps d'un week-end. Donc il y a quand même un premier tour, mais qui se joue dans les conditions du tournoi le samedi jusqu'à la fin de, jusqu'au milieu de l'après-midi. Les petits clubs, on ouvre assez largement les vannes pour qu'ils puissent se confronter à toutes ces têtes d'affiche et ces grands noms qui font rêver les petits. Voilà. Et aussi, on a un côté, il y a de très beaux tournois de jeunes qui existent, mais on a un côté très spectaculaire. Donc je crois que c'est le coach de l'OM, l'OM n'était pas venu pendant 3 ou 4 ans, et quand ils sont revenus il y a 5-6 ans, ces mots, ça a été content de revoir le plus spectaculaire des tournois, parce que c'est 4000 personnes sur 2 jours dans un parc expo où il y a 5 terrains, avec un terrain d'honneur, où il y a 2000 personnes qui assistent à la finale, dans une salle, donc ça fait énormément de bruit. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire à vivre pour les petits, pour les coachs aussi. Et on pourra en parler tout à l'heure, mais on a des grands noms qui ont fait le tournoi et qu'on a revus adultes et qui se souviennent encore de ces moments-là comme des moments majeurs de leur jeunesse de footballeur. Voilà.
Alors, vous avez évoqué les chiffres, Cédric, c'est vrai qu'ils parlent pour eux-mêmes quand même. 5 terrains, 12 clubs pro, 108 équipes qui animeront ce week-end de futsal. Sur le papier, c'est quand même très très alléchant.
Voilà, et puis c'est pour régler tout ça, c'est une organisation millimétrée parce qu'on a des matchs qui partent toutes les 11 minutes.
Oui, il ne faut pas se rater sur le
chrono.
Voilà,
donc c'est, on est quasiment à la seconde près pendant tout le tournoi. Et c'est la qualité de notre organisation qui fait que les clubs pro nous font confiance aussi et reviennent d'année en année. Parce que si l'organisation ne suit pas, vous pouvez être sûr que les clubs pro ne reviennent pas.
Hein. Oui, c'est ça, on s'en doute. Et justement, l'édition 2018, Cédric, c'est le week-end prochain. Comment se passe l'organisation ? Là, on a rigolé un petit peu avec Walid, les derniers détails se règlent, c'est ça ?
Oui, on est à fond. Donc, là, je suis parmi vous, mais pendant que je vous parle, j'ai mes camarades qui sont au Parc Expo et qui commencent à transformer le Parc Expo d'Albi en un petit stadium, parce qu'il faut savoir que quand on le récupère, c'est une étendue de moquette, puisque ça se joue sur la moquette. Et on trace les terrains, on met les séparateurs, on monte les stands, on monte les scènes, la sono. Voilà, donc c'est une semaine de préparation, en fait, avec toutes les petites fourmis du club qui œuvrent sans compter, sans ménager leur peine.
Et justement, au niveau organisationnel, combien vous êtes sur le pont pour préparer l'événement ?
Alors, on compte une grosse centaine, on va dire, avec une cinquantaine de familles d'accueil qui accueillent les petits des clubs pro. Après, c'est une vingtaine d'arbitres officiels. Des gens dans les buvettes, à l'administratif, les terrains, les entrées, les parkings, etc. Donc, tout ce qu'on retrouve dans un tournoi normal, sauf que c'est à une puissance 10, on va dire. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un point que vous avez voulu améliorer par rapport à 2017 dans la préparation du tournoi 2018 ? Est-ce qu'au sortir de 2017, vous vous êtes dit, il y a peut-être ce point-là qu'on devrait améliorer, réagencer, revoir ? Ou est-ce que finalement, vous êtes resté fidèle vraiment à votre ligne de conduite ?
Alors, l'ADN du tournoi reste toujours le même, hein, celui de permettre aux petits clubs de côtoyer les gros clubs et tout en proposant des oppositions sportives de très grosse qualité pour les gros clubs. Après, on évolue tout le temps. Donc, cette année, l'année dernière, on avait déjà fait évoluer un petit peu la formule. Il y avait quelques petits détails à revoir. Donc, on l'a revu cette année. Donc, on a ouvert, on est passé de 96 à 108 clubs. Donc, on a l'année dernière, les têtes d'affiche commençaient le dimanche matin. Cette année, ils commenceront le samedi en fin d'après-midi. Donc, ce qui permet à tous les clubs qui auront été éliminés le samedi de voir ces clubs à l'œuvre, parce que souvent c'est le reproche qu'ils faisaient, parce qu'il y avait des clubs qui venaient de loin, ils ne pouvaient pas revenir le lendemain pour les voir. Donc voilà, donc on s'attend à encore plus de monde, encore plus de fêtes, d'ambiance, et on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais on pense que cette année, on a trouvé une formule qui durera de nombreuses années. Voilà.
Alors, revenons sur cette formule, Cédric, puisque qui dit plus d'équipes dit forcément réagencement du tournoi. Vous avez divisé ces équipes en 12 poules, donc de la poule A à la poule L, avec un système de tête de série, c'est bien ça ?
Voilà, donc il y avait des chapeaux pour avoir des poules équilibrées en fonction de critères géographiques, sportifs. Après, dans la formule du tournoi, c'est un premier tour qui commence le samedi matin à 9h, avec 12 poules de 6 clubs. Donc c'est déjà, on a presque l'habitude de dire que c'est le deuxième plus gros tournoi de futsal de France, parce qu'on a déjà des clubs qui viennent de partout en France, des clubs parisiens, des clubs marseillais, des clubs lyonnais. des clubs de tout le grand sud-ouest, évidemment, du centre de la France. Et donc c'est 12 poules de 6, et dans chaque poule on ouvre assez largement les vannes, puisqu'on a 3 clubs sur 6 qui se qualifient pour la suite de la compétition. Et la suite de la compétition, donc c'est le samedi en fin d'après-midi, vers 4h, 4h30, où là, c'est des 12 poules de 6 aussi, et on a les 3 qualifiés du matin. Et les 3 autres équipes sont des équipes qui commencent directement lors du deuxième tour, donc une équipe et une tête de série, un gros club pro. Et les 2 autres sont des gros clubs amateurs, comme on a cité tout à l'heure, Torcy, Herbel, Burel... Boulogne-Billancourt, Lyon FC aussi, qui est c'est la première fois qu'ils viendront, eux, par exemple. C'est le plus gros club de France en termes de licenciés. Je ne sais pas s'il n'y a pas 2000 licenciés ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà.
Alors, vous avez cité, Cédric, tout à l'heure, les 2 clubs qui sont en première division de futsal, parce que c'est vrai que le futsal en France est actuellement en expansion, mais c'est vrai qu'il est bien développé dans la ville rose. Est-ce que vous suivez les résultats de ces 2 clubs de première division, ou est-ce que vous gardez juste un simple regard, on va dire?
Si, un accro de foot. Je suis tout le foot de l'Occitanie, donc je suis un accro de footpi, notamment.
Qui n'est pas.
Exactement, oui. Donc, c'est vrai qu'on... On suit les clubs régionaux, et puis aussi bien les... Le foot classique, les féminines, et le futsal aussi, avec Bruguière. Donc Bruguière qui avait participé l'année dernière au tournoi. L'UJS qui aurait voulu venir, mais qui, en fait, leurs joueurs sont des joueurs qui jouent déjà dans d'autres clubs et qui participent déjà au tournoi. Donc voilà, ils n'ont pas pu être là cette année, mais pour les avoir croisés, j'ai une autre casquette au sein du club, je m'occupe des U9 de notre club, et pour les avoir croisés sur d'autres tournois à U9, je sais qu'ils ont beaucoup de qualité chez les petits en futsal.
Et puis ils ont fait aussi, l'UJS a fait aussi son propre tournoi il y a un mois à peine.
Voilà, oui, donc oui. L'IFC, dont on parlait tout à l'heure.
27 et 28 janvier. Oui,
qui est un tournoi de U10, ouais. Voilà, et qui est aussi un très beau tournoi, mais avec un très très beau plateau. Mais ouais, qui voilà, mais
il est pas aussi gros que le vôtre.
Disons que l'avantage que nous avons, c'est les installations, et le fait d'avoir 5 terrains sur le même lieu permet d'organiser un événement d'une ampleur qui est sans équivalent en France, et avec un engouement qui est sans équivalent.
Et le tournoi de l'UJS, justement, il a 3 ans, je crois.
Il y a 2 ans. Justement, il y a une certaine différence aussi, c'est que là, c'est la 28e édition. L'UJS vient à peine l'IFC vient à peine d'être lancé, donc il y a aussi.
Comment vous l'avez reçu, cette nouvelle, quand vous avez appris qu'il y aurait un tournoi IFC?
Ah, nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Nous, déjà, ce n'est pas la même catégorie. Ouais. De toute façon, l'UJS a été très intelligent là-dessus, parce que. Les dates, quand on est sur des catégories pleines, on va dire les U11 et les U13, etc., que ce soit les tournois de futsal ou les tournois en herbe, les rendez-vous sont déjà calés. C'est très difficile d'insérer une nouvelle date pour les clubs pro, parce qu'ils font quasiment tous les tournois, les mêmes tournois d'une année sur l'autre. Mmh. Et là, du coup, en trouvant ce créneau des U10, il n'existe pas de tournois sur ces demi-catégories, on va dire. Et là, il y avait une vraie demande des clubs pro là-dessus.
D'accord. Donc ils veulent se lancer de plus en plus jeunes, en fait, dans ce genre de tournoi qui attire quand même pas mal de spectateurs. Hein.
Mais c'est vrai que chez les clubs pro, contrairement aux clubs lambda, on va dire, où les catégories recouvrent 2 ans, par exemple les U11, c'est les U10, U11, les U13, les U12, U13. Ouais. Chez les clubs pro, ils fonctionnent vraiment par année. Vous avez un groupe U11, vous avez un groupe U10, un groupe U12, U13, etc. Et c'est vrai que les clubs pro sont très friands de ces... Enfin, que j'appelle de demi-catégorie, parce qu'il y a beaucoup moins
d'opportunités,
on va dire. Voilà.
Tout à fait.
Alors, messieurs, justement, Cédric, il y a un point commun entre le Challenge Cabiais et l'IFC. Est-ce que vous savez lequel c'est ?
On fait du futsal, déjà. Ouais.
Ben, c'est l'année dernière. Ouais. C'est, figurez-vous, pour l'édition 2017 de ces tournois, c'est à chaque fois l'US Torcy qui s'est imposé.
Oui, tout à fait. Fois. Et c'est pas un hasard.
C'est pas un hasard.
Cette année, nous, on aura la génération qui a gagné l'IFC l'année dernière chez nous. Donc, on s'attend à les voir briller encore une fois. Mais c'est, enfin, comme je vous l'ai dit au début, il y a que les gens qui suivent ça de loin qui ont été surpris, parce que les clubs pro savent que Torcy chez les petits,
c'est une
on va dire jusqu'au U13 et largement du niveau des clubs pro.
Et justement, ce résultat-là, messieurs, il évoque un fait important et qui a aussi fait le charme de l'IFC, tout comme le Challenge Cabiais, c'est que c'est accessible. Club pro ne veut pas forcément dire club ultra favori, et petit club régional, entre guillemets, bien sûr, ne veut pas dire simple outsider qui va faire de la figuration. Tout le monde a vraiment sa place.
Alors, tout le monde a sa place. Alors, je rectifierai juste en disant que quand on dit que club pro ne veut pas dire favori, J'irai pas jusque-là, les clubs pros sont toujours parmi les meilleurs, mais ne sont pas toujours le meilleur. Le meilleur n'est pas toujours un club pro, pardon, voilà. Mais c'est vrai que les clubs pros sont toujours quand même parmi les meilleurs au final. Mais l'année dernière, on a eu un exemple assez frappant parce qu'on avait un niveau qui a quasiment jamais été aussi relevé l'année dernière. Et pour la première fois du tournoi, on s'est retrouvé en demi-finale avec 4 clubs amateurs, dont le TAC d'ailleurs. Qui a fait un tournoi exceptionnel l'année dernière. Mais c'était mérité. C'est juste qu'à cet âge-là, les meilleurs joueurs ne sont pas tous encore dans les clubs pro. Mais il y en a quand même des très bons qui sont dans les clubs pro. Parce que je peux vous en citer quelques-uns qui sont passés par le tournoi et qui étaient dans les clubs pro. Par exemple, Karim Benzema l'a gagné avec l'Olympique Lyonnais déjà à l'époque. Et pour les connaisseurs, c'est une équipe où à l'époque, ils ont tous fini pro. Il y avait notamment Rémy Rioux, le gardien qui a joué à Toulouse, qui a joué à Nantes ensuite, qui faisait partie de ces générations-là. On a Raphaël Varane, qui l'a gagné avec Lens. Mathieu Valbuena, qui l'a fait avec Bordeaux. Mathieu Flamini, avec Marseille. Et puis des plus récents, Faouzi Goulam, qui est aujourd'hui à Naples.
Naples, oui.
J'ai une liste, on en découvre tous les jours. Encore, mais aujourd'hui, j'ai appris, par exemple, que l'attaque du FC Sochaux qui a joué contre Colomiers, ouais. c'est Kaloulou, qui est prêté par Lyon.
D'accord.
Et un autre joueur qui s'appelle Thomas Robinet, oui. qui tous les deux ont gagné le tournoi aussi. C'est le coach de l'époque qui m'a confirmé ça cet après-midi. À l'époque, ils avaient gagné 6-0 la finale contre l'US Albi. Et c'est le record, il n'y avait jamais eu un aussi gros score en finale. Mais voilà, on en apprend tous les jours. Il y a Valentin Rougier, il y a Martin Terrier que Lyon vient d'acheter.
Très courtisé, courtisé Martin Terrier.
Mais la liste est longue, je parle que des plus connus. Mais c'est vrai que souvent, ces joueurs-là étaient déjà dans des clubs pro, quand même. Les gamins qui ont vraiment un truc en plus que les autres, ils sont repérés quand même assez rapidement. Ouais.
Et cette liste qui s'allonge, finalement, Cédric, elle gonfle la crédibilité aussi, finalement. Ça peut justifier aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Mais encore.
Ça continue de fonctionner.
C'était, je crois, il y a 15 jours, dans l'équipe, il y avait une pleine page sur un gamin qui a été recruté par l'AS Monaco à 13 ans, je crois. Et il se murmure qu'il aurait eu 1 million d'euros pour le recruter. Ouh. Et en fait, ce joueur-là, il a gagné le tournoi avec le Paris FC il y a 3 ou 4 ans. Et déjà, à l'époque, tout le monde l'avait repéré. Et quand on l'a vu en photo, il avait une coupe un peu afro. il avait une coupe de cheveux très, très reconnaissable et un jeu qui était extraordinaire. Et c'est vrai que les joueurs qui sont au-dessus du lot, déjà, tout petits, on les remarque en général.
Oui,
il y en a des plus laborieux qui arrivent à force de travail à devenir des bons joueurs de Ligue 1, etc. Mais ceux qui sont vraiment très au-dessus du lot, on le voit déjà tout petit.
Et vous savez justement, d'ailleurs, Cédric, s'il y a des scouts, entre guillemets, des recruteurs qui viennent pour ces tournois ou
alors,
on n'est pas informé ?
Très longtemps, on ne savait pas. Et puis, depuis 2-3 ans, en fait, on le sait parce qu'on a... On a quelques contacts sur ce milieu-là, on a des demandes d'invitation, etc. Et effectivement, je sais qu'au dernier tournoi, il y avait Monaco, il y avait Chelsea, il y avait Barcelone, il y avait bien sûr Bordeaux, Toulouse, Marseille. Enfin voilà, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai que souvent, il y a une prime au premier qui lie un contact avec les parents, qui sait se gagner la confiance des parents, parce que les gamins partent dans les clubs pro juste... en U14, U15, pas avant, un centre de formation. Mais c'est vrai que c'est souvent un travail de sape qui dure de longues années pour que les clubs séduisent les petits.
Et comme vous le dites, de plus en plus tôt, avec l'exemple de Monaco que vous donniez, à 13 ans, dépenser 1 million d'euros, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est logique dans le football de s'attaquer de plus en plus tôt, alors non seulement à l'enfant qui joue au football, mais surtout à son entourage, à ses parents, de faire pression.
C'est réussir à se le mettre dans la poche.
Quand nous on fait le tour des U17, des U15, pour Footpi, pour voir les matchs, on voit souvent des agents, des recruteurs tourner autour des familles, parfois pour le pire, parce que ça monte aussi à la tête de certains parents, malheureusement. Mais c'est vrai que oui, c'est de plus en plus tôt. Donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, chez la catégorie U11, on aille se déplacer pour voir les pépites du foot français dans un tournoi. En plus, où le futsal, ça demande vraiment justement une technique particulière.
Voilà, donc en futsal, en fait, chez les tout-petits, on remarque les joueurs les plus techniques, on va dire. Ceux qui ont un truc en plus, quoi. Ça les met particulièrement en valeur. Par exemple, il y a un joueur de Toulouse, Issa Diop l'a fait. Il brillait pas par sa technique. Il y a personne qui se souvient de son passage. Il avait d'autres qualités qui en font un très très bon footballeur aujourd'hui. Mais le futsal n'était pas forcément le meilleur terrain pour exprimer ses talents.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que les petits joueurs techniques qui ont le petit truc en plus, qui après feront que les gens vont au stade. En fait, les Benzema,
ça se voit très vite.
Comme ça, le petit joueur dont on parlait de Paris FC, ceux-là, c'est ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il n'y a pas besoin d'être recruteur. C'est n'importe qui se met 5 minutes au bord d'un terrain a compris que certains gamins ont un truc en plus. Quoi.
Ouais. Aujourd'hui, donc, les clubs n'ont plus de réticence à mettre un peu d'argent sur ces gamins-là pour les approcher. Pour les
oui, recruter. Alors officiellement, Monaco a démenti, mais oui. Bon.
La suite le dira.
On sait que ce petit est déjà suivi, déjà en U11, par tous les plus gros clubs européens. Alors, après, avec Monaco, il ne fait pas un mauvais choix, je pense.
Non,
bon, Cédric, pour le coup, 108 clubs pour 2018. Encore plus pour 2019, vous pensez?
Non, là, honnêtement, je pense qu'on a...
Vous parlez de stabilité dans l'organisation.
Je pense qu'on a... La formule est mature et pérenne maintenant, parce que on veille surtout à ce que les équipes qui participent au tournoi le fassent dans de très très bonnes conditions. Donc aller au-delà, ça serait aller trop loin. Là, on a revu la formule pour qu'on ait étendu le deuxième tour commence un peu plus tôt. Mais on veille à ce que tout le monde ait un nombre de matchs suffisant, un temps de jeu correct, les matchs qui s'enchaînent avec du temps de repos. On fait très attention à l'équité sur le tournoi. Il y a toujours des gens qui râlent, ouais, non, vous favorisez les clubs pro, mais non, c'est pas vrai. Les arbitres sont totalement indépendants. Quand on les briefe, on leur dit bien, vous arbitrez tout le monde exactement de la même manière. Et il y a des clubs pro qui râlent comme les autres.
Est-ce qu'on protège le futur Neymar? Alors, est-ce que
non, parce qu'on sait pas qui sera
ça fait débat.
Mais les tacles sont interdits.
Oui, enfin, les contacts, je veux dire.
Donc, au futsal, on n'a pas droit aux charges, pas droit aux tacles. Et donc on protège les joueurs, mais tous les joueurs, pas que le futur Neymar. Ouais. Voilà, donc c'est l'équité est vraiment quelque chose qui est très importante pour nous. Et le plus bel exemple, c'est l'année dernière, puisque je disais, pour la première fois, on s'est retrouvé avec des... Jusqu'à présent, il n'y a que la première édition qui n'avait pas été gagnée par un club pro parce qu'il n'y en avait pas, donc il y a 28 ans. Mais depuis, c'était à chaque fois un club pro qui avait gagné. Et là, l'année dernière, en 2017, on a eu des demi-finales qu'avec des clubs amateurs. Et c'est la preuve qu'on les traite comme les autres. Ouais. Et tout le monde a sa chance. À partir du moment où il y a le talent, c'est le meilleur qui finit par gagner à la fin. Voilà.
Mais c'est une très belle phrase, Cédric. Oui. Et juste avant de conclure, justement, un petit favori pour cette 28e émission. Est-ce que vous pensez que Torcy peut faire le doublé?
Ah, mais c'est sûr que Torcy sera attendu parce qu'ils sont tenants du titre. Et en plus, on sait qu'ils ont une génération qui, l'année dernière, en U10, avait brillé. Et puis après, on se retrouve toujours avec les clubs qui sont toujours parmi les favoris. C'est le TFC, qui a toujours de très belles équipes chez les petits. Le FC Nantes aussi. Et puis on attend, donc on a 4 clubs étrangers cette année qui viennent. Donc on a Brighton, le club de Première Ligue.
Le Servette de Genève aussi.
Le Servette de Genève, qui est le Charleroi. Et un deuxième club genevois avec l'Étoile Carouge. Et donc, on attend de belles surprises de ces clubs-là, notamment Carouge, Charleroi, qui est un club de Bruxelles et qui est un des plus gros clubs formateurs belges.
Exact, qui était présent à l'IFC d'ailleurs. Et pour revenir bien évidemment sur les clubs français, on retrouvera notamment Marseille, Monaco, Strasbourg, Nantes.
Tout à fait.
Un joli plateau là aussi. Et des clubs qui reviennent aussi, ce qui montre finalement que ça marche.
Oui, et puis c'est vrai qu'un club comme Marseille... qui avait longtemps délaissé sa préformation. On sent que depuis quelques années, ça a changé. Et le niveau augmente et beaucoup de clubs travaillent bien.
Ouais. Bon, très bien. Bien, rendez-vous samedi dès 9h, c'est ça le début?
Samedi dès 9h, samedi à 16h pour l'entrée en lice des têtes d'affiche. Et puis dimanche, toute la journée pour les derniers matchs et les phases finales, donc le dimanche après-midi à partir de 13h. Voilà. Et finale à 17h.
Eh bien, rendez-vous le 24, les 24 et 25 février au Parc des Expos Albi Le Sequestre pour la 28e édition du Challenge Cabiais. Ça a été très bien présenté par Cédric Talon, il faut le dire. Maintenant, Cédric, je vais vous poser quelques questions un petit peu plus légères à la mode tac au tac que vous devez connaître, puisque selon Walid, tout le monde lit footpi, mais tout le monde lit footpi.
Tout le monde, absolument. Tout le monde lit footpi.
Je confirme.
Donc, Cédric, si je vous demande Barça ou Real ?
Barça.
OM ou PSG ?
Alors, je dirais Toulouse, mais si je dois choisir, je dirais PSG quand même.
Bayern ou Dortmund ?
Dortmund.
Pep Guardiola ou José Mourinho ?
Guardiola.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ?
En tant qu'entraîneur ou joueur ?
Entraîneur.
Entraîneur, je dirais quand même Deschamps.
Vicente Del Bosque ou Marcello Lippi ?
Lippi.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?
Messi.
Andrea Pirlo ou Xavi Hernandez ?
À la classe italienne, Pirlo.
Andrés Iniesta ou Luka Modric ?
Iniesta.
Rugby ou basket ?
On est dans le sud-ouest, on va dire rugby.
Tennis ou hand ?
J'ai eu joué au tennis, donc on va dire tennis.
Roger Federer ou Rafa Nadal ?
À la classe de Federer.
Ouais. Qui a retrouvé la première place au classement ATP. Toujours une légende. Thé ou café ?
Aucun des deux.
Chocolatine ou pain au chocolat ?
Ah là, si je dis pain au chocolat, je dois partir, c'est ça ? Chocolatine, évidemment.
Pizza ou McDo ?
Pizza.
Mer ou montagne ?
La mer.
États-Unis ou Australie ?
États-Unis.
Italie ou Espagne ?
L'Espagne.
Blonde ou brune ?
Brune.
Cédric Talon, joueur ou coach d'une équipe de futsal un jour ? Possible ou non ?
Non, je ne pense pas. Organiser le tournoi, ça prend beaucoup de temps. Et puis... je suis avec mes petits U9 dans mon club, et donc futsal en ce moment parce qu'on joue l'hiver en salle, mais sinon je reste fidèle au foot en herbe.
Si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, à part Toulouse ?
À part Toulouse, j'aime bien ce que fait Lyon.
Oui ?
Oui.
La vidéo dans le foot, oui ou non ?
Alors je pense oui, mais il va falloir apprendre à s'en servir.
Et la France, elle peut la gagner cette Coupe du Monde ?
Elle peut la gagner. Après, est-ce qu'elle va la gagner ? Je ne sais pas.
Réponse
mais
le 15 juillet.
Je pense qu'elle fait partie des favoris. Oui.
Merci beaucoup, Cédric. Et avant de passer au quiz, un petit tour avec Olyphant. C'est Whatever sur Occitanie Première. Olyphant, un groupe que vous connaissez personnellement, du coup, Cédric ?
D'où oui, ce oui, choix musical ? C'est un ami, et puis j'aime ce qu'ils font. Donc, ils sont en train de sortir un nouvel album, et c'était l'occasion de faire parler un peu d'eux, parce qu'ils le méritent.
Très voilà. Bien. Et bien voilà, le message est passé. Messieurs, je vous propose maintenant de passer au fameux quiz. Walid, est-ce que vous l'aviez gagné contre Greg Soroche, ce
non,
quiz ?
J'avais perdu de peu, mais j'avais perdu quand même.
Bon.
Donc j'ai la pression là.
Oui, voilà. D'autant qu'encore une fois, Footpi, je pense, aura cœur de garder son trône. On va voir, réponse dans quelques minutes. Donc voilà, pour vous rappeler, messieurs, 10 questions. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. Alors je précise, puisque ce n'est peut-être pas clair, ce sont des questions bien évidemment sur le foot. Hein. C'est pas forcément en France, mais c'est sur le foot. Alors messieurs, première question, si je vous dis « Et non mon cher, ce n'était pas du japonais ».
Du chinois, les maillots, le nom des maillots sur les clubs, les clubs de Ligue 1, donc il y avait Marseille, il y avait
oui,
Paris, il me
c'est
semble.
Ça, mais justement l'intitulé « Et non mon cher, ce n'était pas du japonais
ah, ». C'est une vraie phrase que quelqu'un a prononcée ?
Non, c'est l'intitulé de la question, c'est « Non, ce n'était pas du japonais », justement, parce que quelqu'un a confondu, a cru que c'était du japonais, mais c'est en
bon, chinois. Ça doit être Paganelli, ça ?
Non.
Un consultanté ?
C'est un joueur de foot qui a mis ça sur les réseaux sociaux, qui a, si vous voulez, a pris en photo son maillot avec
ah,
un petit
Florent Thauvin.
Non.
Non.
Avec c'est un Marseillais.
Non. Avec le drapeau du Japon à côté, donc il s'est fait un petit peu.
Donc c'est un Parisien. Parce que il me semble qu'il n'y avait pas.
C'est tout, un Parisien.
Tous les clubs n'étaient pas.
Et Marseille aussi qui a fait ça. J'ai
oui.
Vu
oui.
Pas.
Mais c'est un. C'est un Parisien. C'est un Parisien.
Levin Kurzawa.
Eh ben oui. Ah, eh oui. Eh oui. Voilà. Voilà. C'est Levin Kurzawa. On n'est pas sans savoir justement que le Nouvel An chinois a été célébré. Et sauf que pour certains. Au niveau linguistique, ça semble pas être toujours très clair. Et voilà, donc Levin Kurzawa, qui sur les réseaux sociaux, a pris le flocage en photo avec, à côté, un drapeau japonais.
Et d'ailleurs, on dit Kurzawa. Parce que c'est polonais et pas Kurzawa, parce voilà. Que c'est pas c'est japonais.
On pourrait presque lui donner un point, là, Cédric. On pourrait presque lui donner un point.
C'est vrai.
Messieurs, deuxième question. L'idole de Khazar leur offre la victoire.
L'idole de Khazar.
C'est pas Ali Hamada, non ?
Non.
Ah, c'est Cheikh Diabaté, le Benevento qui donne.
Exactement, Wally. Cheikh Diabaté qui a été le héros de Benevento ce week-end. Il est entré en jeu à un quart d'heure de la fin. Et bon, souvent rallié par Julien Khazar, c'est le peu que l'on puisse dire, je pense.
Ah oui,
il a offert la victoire au dernier de Serie A en marquant un but dans les dernières secondes. Résultat, victoire 3-2 contre Crotone et un retard désormais de 11 points sur Crotone. Voilà, 17ème et premier non relégable, Cheikh Diabaté.
Cheikh Diabaté, il a sauvé Metz, donc il va pouvoir sauver Benevento.
Ça aurait pu être Ali Hamada, qui, si mes souvenirs sont bons, a marqué un but avec le TFC, il me semble,
contre
Rennes.
La fin de sa carrière.
Le but de l'égalisation, voilà.
Le summum et la fin.
Ali Hamada, voilà, justement. Mais 2-0 pour Walid. Il reste encore 8 questions. Messieurs, la troisième, si je vous dis 21 731.
C'est un montant
non. Un nombre de spectateurs.
Oui, pour
OM Braga.
Oui, exactement. Justement, c'est là où il faut faire attention parce que des fois, on donne des caviars,
ouais,
en fait, involontairement.
Je la vole, celle-là.
C'est l'influence qui a quelque peu fait polémique à l'occasion de la réception de Braga à Marseille. Le vélodrome était clairsemé, un virage notamment fermé. Tout cela pour un 16e de finale de Ligue Europa. Donc, bon, l'horaire peut en partie justifier une faible influence. C'est à 19h, surtout que les gens ont comparé avec le match au Parco et à Lyon, qui était à 21h contre Villarreal. Bon, en tout cas, le vélodrome s'est rattrapé hier soir face à Bordeaux. Avec une influence ben forcément un petit peu plus conséquente.
Ouais,
3-0, rien n'est fait Cédric, rien n'est fait.
Non, c'est la fin qui compte.
Exactement, exactement. Même le ballon a sursauté.
Alors là, même le ballon a sursauté. C'est sur un pénalty ?
Oui.
Oui, alors je sais pas qui l'a tiré.
C'est peut-être
Ronaldo ?
À Caen. Rondelet.
Ronaldo ?
Non.
Oui,
c'est Ronaldo,
c'est Ronaldo contre le PSG. Ouais. Ouais, c'est une image qui a particulièrement marqué, puisqu'au moment de tirer le pénalty face à Paris, Ronaldo a, grâce à son pied d'appui, fait se soulever le ballon sans le toucher, et avant de le frapper avec son pied droit, et mine de rien, comme une reprise de volée. Quoi. Donc c'est une nouvelle prouesse technique, on va dire, pour le Portugais, qui, selon Rio Ferdinand, qui se sont côtoyés à United, a longtemps travaillé ce geste. Mais c'est vrai qu'au tout début, on croit que c'est truqué. Quoi. Le ballon se soulève un petit peu.
C'est impressionnant. Et puis ça donne effectivement un coup de vitesse au ballon au moment de la frappe. C'est, Areola avait plongé du bon côté, mais c'était tellement puissant.
La puissance de la frappe, je pense que même s'il la touche... Justement, messieurs, on a un petit peu de temps devant nous, on peut en profiter. Vous y croyez, la remontada du PSG ?
Oh oui, c'est possible. Après, il va falloir qu'ils changent d'état d'esprit. Mais je pense qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc ils vont lâcher le frein à main. Et je ne sais pas s'ils vont la faire, mais je suis sûr qu'ils vont mettre une énorme pression au Real.
Ouais, vous y croyez ?
Contrairement au match du Barça, où ils avaient un peu les fesses entre deux chaises, pour rester poli, à 4-0 à l'aller, ils se sont dit « Bon, on n'est peut-être pas favori au Camp Nou, mais... on va essayer de tenir peut-être un match nul ou de ne pas faire une grosse défaite. » Là, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est possible, en plus avec des garçons au caractère de Neymar ou de Dani Alves, qui, eux, n'étaient pas là l'année dernière. Je pense que ça peut le faire, oui, effectivement.
Eh bien, réponse le 6 mars, au soir. Messieurs, 4-0, c'est toujours pas fini. Toujours pas. Messieurs, eux, par contre, eh ben, ils ont plus qu'à l'emporter 6 buts à 1.
Donc, il y a eu 5-0. 6 buts à 1.
En Coupe d'Europe ?
Oui. Eux, maintenant, bah, s'ils veulent se qualifier, ils n'ont plus qu'à l'emporter 6 buts à 1.
Bâle.
Non.
C'est des Français ?
Non, c'est pas Bâle. Il y a une autre équipe qui
Bâle, ils ont perdu 5-0, non ?
4-0.
Ah, raté. Alors.
4-0, donc c'est un 5-0, ouais.
Ah oui, Lisbonne.
Non.
Contre Liverpool.
Non, c'est contre Liverpool, c'est pas Lisbonne.
Porto.
Et oui, voilà. C'est Porto.
J'ai donné des perches.
C'est Porto. Là, je me suis dit, Walid, il va la prendre celle-là.
Ah non, mais c'est le match qui est passé.
Portugais, oui.
C'est Porto.
C'est le match qui est passé inaperçu.
C'était. Bah, c'était en plus, on était tellement focalisé. Moi, à titre personnel, j'étais tellement focalisé sur Real PSG. On m'envoyait des captures d'écran du score de Porto. J'étais complètement ailleurs. Voilà. Mais c'est le résultat de battu 5-0 sur leur pelouse par Liverpool. Les Portugais pourraient s'inspirer de la remontada du Barça, puisqu'un score similaire les enverrait en quart. Bon, il faudra le réaliser à l'extérieur et en field.
Ouais,
c'est un petit peu plus compliqué, notamment avec un certain Mohamed Salah qui est assez impressionnant en ce moment. Mais ouais. Écoutez, hein, pourquoi pas 4-1 en tout cas, pourquoi pas aussi pour Cédric qui ouvre son compteur. Messieurs, sixième question. Eh ben dis donc, le break, il leur brûle les ailes.
C'est une équipe qui s'est fait remonter après avoir fait le break, c'est
Lyon.
Et oui, Cédric. Lyon s'est encore fait rejoindre hier après avoir mené 2-0. Face à Lille, l'OL a concédé le nul. Deux semaines après avoir perdu à Monaco en ayant également fait le break. En tout, messieurs, ce sont 9 points qui ont été perdus par les Lyonnais après un break. Puisqu'en début de saison, à Angers et contre Bordeaux, ils menaient 3-0 avant finalement de partager les points. 3 partout, là aussi. Attention, puisque l'écart avec l'Olympique de Marseille est déjà de 6 points.
4 points avec Monaco.
Un peu plus, du coup.
Monaco,
parce que Monaco est second. Mmh. Allez, 9 points, c'est vrai que psychologiquement, c'est... Voilà, c'est vrai que mener 2-0 et se faire remonter, surtout quand ça arrive plusieurs fois, c'est...
C'est ça. Ouais. Ça coïncide avec l'histoire du mug qu'ils avaient fait contre victoire contre le PSG. Ils se sont targués d'avoir battu le PSG. Et puis tout de suite après.
Parce que s'ils avaient su que la suite allait être ce qu'elle est, ils auraient évité de faire ce qui s'est passé. Messieurs, 4-2. Alors, ça, pour le coup, pour eux, c'est vraiment pas leur priorité.
Zut. C'est Naples ?
Oui, ouais, c'est Naples qui est en Ligue Europa.
A
clairement fait tourner au San Paolo. Les Italiens ont fait une énorme rotation et se sont inclinés contre Leipzig, du coup, 3 buts à 1. Une grosse revue effective pour les Napolitains, qui sont encore leaders de Serie A devant la Juve. Et qui, pour le coup, on pose souvent les questions aux coachs qui viennent : qu'est-ce que vous choisissez ? Coupe, championnat ? Pour le coup, eux, c'est clairement défini, c'est la Serie A, après laquelle ils courent depuis plusieurs saisons quand même. On sent que pour le Napoli,
ils ont raison.
Ça peut être celle-ci. Messieurs, 5-2, il reste 3 questions. Cédric, vous pouvez égaliser. Il faut faire un sans faute.
Moi, je ne perdrai pas, je suis déjà content.
Il faut faire un sans faute, ça part peut-être maintenant. Messieurs, si je vous dis reçu 15 sur 15.
Martin Fourcade.
Non, c'est en foot.
Ah oui, pardon. Ah non, c'est les
Gilles. On aurait pu en faire une parenthèse sur lui, on aurait pu, mais non.
C'est pas Marseille.
Non.
Qu'est-ce qui peut ramener 15?
Monaco.
Non. Alors messieurs, c'est en France, mais ce n'est pas en Ligue 1.
Reims ?
Non, ce n'est pas en Ligue 2.
Ah non plus, d'accord.
15 sur 15.
Victoires sur...
15 victoires sur 15 matchs.
Grenoble ?
Non.
Alors là...
C'est pas en Ligue 2. Lyon en D1 féminine.
Oui, exactement. C'est les féminines de Lyon qui continuent leur incroyable sans faute, messieurs. Bon, hier, elles ont gagné à Bordeaux 4-0, hein, ce qui semble être un score. Oui, voilà. C'est commun. C'est commun, oui. pour elles. Elles sont plus que jamais leaders de leur championnat. 45 points sur 45 possibles, 15 victoires en 15 matchs. Et une avance de 5 points sur Paris. C'est dire qu'on peut avoir 15 victoires, mais c'est même pas plié encore.
Oui, c'est clair. Ouais.
Paris qui a battu Albi ce week-end.
Voilà, exactement. Voilà, Paris qui a 40 unités au compteur, 5-3 messieurs. Avant-dernière question, si je vous dis le chiffre 31, le nombre d'ailleurs en plus, 31.
C'est le numéro de maillot ?
Non.
Non.
Un nombre de buts ?
Non.
31.
Une série ?
Oui. Ah. C'est une série.
Une série d'invincibilité oui. À domicile ?
Non.
En France ?
Non, ce n'est pas en France.
Manchester City ?
Non. Ça aurait pu, mais non.
C'est en Angleterre ?
Non.
Donc c'est en Allemagne ?
Non plus.
Parce qu'il n'y a personne en Espagne qui fait ça, je pense. C'est en Espagne.
Le Barça ?
Oui, oui, oui. Ah, le Barça. Donc une série d'invincibilité du Barça. Exactement. C'est vrai que c'est la série d'invincibilité du Barça en Liga. Okay. Suite à leur victoire à Eibar, les Blaugrana ont battu le record établi par les troupes de Pep Guardiola. 2010-2011, le record absolu revient à la Real Sociedad à la fin des années 70 et les Barcelonais n'en sont pas loin puisque les Basques avaient aligné, eux, 32 matchs.
C'est surprenant, je m'attendais pas.
Voilà. C'est comme c'est à cheval sur les deux saisons, du coup, c'est peut-être
c'est vrai.
Ce qui vous a perturbé. 5-4, attention parce que Cédric peut égaliser. Aujourd'hui, c'est très important, on est ensemble, on perd le ballon, on va presser. Qui a tenu ce discours ?
Rudy Garcia ?
Non.
Aujourd'hui, c'est très important, on est ensemble.
Emery ? Non, ça m'étonne.
Non.
C'est un coach Ligue 1 ?
Non, c'est pas un coach.
Ah, c'est pas un coach.
C'est un joueur de Toulouse ?
Non.
De Paris ?
Oui.
Rabiot ?
Non.
Diarra ?
Thiago Silva. Eh oui, le capitaine du PSG qui a retrouvé une place de titulaire contre Strasbourg et a tenu à le montrer. Voilà, son premier discours post-Real. Match durant lequel il a notamment été laissé sur le banc de touche par Unai Emery. Eh bien, 6-4, c'est une victoire pour Walid, mais la belle remontée quand même, hein. Il faut le monter.
J'ai craqué sur la fin.
Ça a été disputé. Oui, d'ailleurs, il reste quelques instants là aussi, peut-être pour en parler. Vous auriez fait ce qu'a fait Emery, mettre Thiago Silva sur le banc comme ça ?
Thiago Silva, moi, personnellement, oui. Parce que, enfin, oui, pas un oui catégorique et définitif, mais Kimpembe, je veux dire, c'est une bonne... c'est pas non plus un peintre. C'est pas le père droit de l'année. C'est un jeune, certes, mais il a quand même de la bouteille. Moi, c'est plus sur Lo Celso que j'aurais pas vu titulaire, mais...
Voilà, j'aurais dit la même chose, et puis... aussi la sortie de
Cavani,
de
pour Cavani faire qui, oui,
même s'il n'était pas très bon sur ce match, il équilibrait l'équipe. Oui. Et après, l'équipe a été complètement désorganisée avec Mbappé perdu devant, alors que sur le côté, il était efficace. Quand même.
On l'a vu contre Strasbourg. Cavani, il peut faire 70 minutes pourries et puis marquer deux buts d'un coup, venu de nulle part. Il aurait pu au moins marquer une fois contre le Real, je pense. Et puis faire rentrer Meunier alors qu'on a Di Maria sur le banc.
Il nous a fait une Laurent Blanc.
Mais en tout cas, marqué.
Avec Debuchy, je crois.
C'est ça. Mais Laurent Blanc l'avait fait avec le PSG aussi contre
Manchester City.
Le 3-5-2, le fameux.
Voilà, le 3-5-2 que jamais il n'avait essayé.
Bon, en tout cas, pour Cavani, deux buts suffiront pour qualifier le PSG face au Real Madrid. Et avant ce rendez-vous, il y a celui de ce week-end dont Cédric nous a très bien parlé. 24 et 25 février au Parc des Expos Albi, le CQS, c'est la 28e édition du Challenge Cabiès. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir, parlé et puis on vous attend ce week-end.
Cette 28e édition, venez nombreux au Parc des Expos, on le rappelle, Albi, le séquestre, ça commence samedi à 9h jusqu'à dimanche soir. Merci beaucoup, Walid, d'être venu.
Bah, merci beaucoup.
Et Footpi qui conserve son trône. Merci à Jean-Louis Arzac à la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes d'Occitanie Première. On se retrouve la semaine prochaine pour la 14e. Bonsoir à tous.